Oui, bonjour, je suis Olivier de Lavore dans le Tarn, membre du groupe national de surveillance des arbres. Bonjour à toute l'équipe de La Terre au Carré. Je souhaitais intervenir pour donner mon expérience concernant le fait de ne pas tondre son jardin. Voilà, depuis le printemps dernier, j'ai eu l'occasion de laisser pousser l'herbe dans une bonne partie de mon jardin. J'ai eu la très bonne surprise de voir arriver tout un tas d'oiseaux que je ne voyais jamais habituellement dans le jardin, et notamment des chardonnerets élégants. Trois couples de chardonnerets élégants qui venaient picorer les petites graines des herbes hautes. Voilà, je souhaitais témoigner et effectivement, laisser pousser les herbes, c'est pas sale, c'est naturel et c'est un petit conseil, ça fait économiser du temps. On a un jardin qui est tout aussi beau, fleuri, avec des herbes hautes. Et puis c'est bon pour notre environnement et pour la biodiversité. Merci à tous.
Sarah de Nantes, concernant l'émission sur le lithium. Nous constatons bien les catastrophes engendrées par les solutions soi-disant écologiques. Va-t-on accepter et admettre un jour que sans décroissance, nous ne survivrons pas ? Merci.
Bon, écoutez, moi je suis Dominique, j'habite Arcueil dans le Val-de-Marne, mais tout de même je suis choqué par ce qui se passe à Aubervilliers, où on va supprimer des jardins ouvriers qui sont là depuis 100 ans pour les Jeux Olympiques, un stade et par rapport aussi à l'extension du métro, du grand métro Paris. Donc moi, ça me choque énormément, ces choses-là. C'est foutu pour le jardin ouvrier.
Michel, dans les Pyrénées, village de Paumé. Juste dire le plaisir que j'ai d'écouter votre émission sur le jardin peuple. Je n'aurais jamais pensé à nommer l'espace dans lequel je vis de ce vocable, mais c'est une très bonne idée. Ici, la nature, elle fait sa vie, et moi, je passe où je peux. Voilà, quand j'ai besoin, je coupe, mais le minimum. J'engendre et je sème de façon un peu parce que c'est très sec, parce que la terre est pauvre et que je me nourris beaucoup de plantes sauvages. Voilà, donc le côté punk me convient très bien sur l'idée de sortir des clous et des lignes droites et de la lutte contre des plantes qui au contraire sont nos alliés. Donc voilà, c'est l'alliance totale et ça me fait très plaisir. Voilà, c'était Théo, à bientôt.
Rémi Cézanne, encore une fois pour la planète, ce jour n'a jamais aussi bien porté son adjectif. Black Friday. Allez, bonne journée à tous.
Le répondeur de La Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Au sommaire de ce club, une balade écolo en forêt à la rencontre des êtres vivants qui peuplent les étendues boisées. On vous présentera un jeu de plateau sur le climat à poser sous le sapin de Noël. Et puis on s'intéressera à un enfant de la campagne devenu le plus célèbre des fabulistes, Jean de La Fontaine. Et bonjour à nos invités, l'entomologiste François Lasserre, la chercheuse Aude Valade et le pianiste Patrick Scheider. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue, on va se retrouver dans un instant pour un premier tour de table. Et bien sûr, vous allez répondre aux messages des terriennes et terriens qui nous écoutent et qui auront donc des petits mots à vous envoyer via la page de La Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce qu'on trouve dans votre journal des curiosités, des bonnes nouvelles aujourd'hui?
Homard et poulpe, albatros, Green Friday et un record pour Einstein.
Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré. Charles de Cilia réalise l'émission, préparée aujourd'hui par Marion Philippe et Chantal Le Montagnier. Adèle Caglar est à la technique.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. Sur France Inter.
François Lasserre, vous êtes donc entomologiste, vice-président de l'OPIS et l'Office des insectes pour les insectes et leur environnement. Et vous publiez dans cette collection Mes balades écolo chez Belin, Ma forêt avec Arnaud Tétlin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre forêt, à vous?
Alors, quand on me demande d'écrire un livre sur les forêts, je me dis, oh là là, mais il y a eu beaucoup de choses. Et en fait, j'ai apporté toute l'expérience que j'ai eue avec ces centaines de personnes que j'ai emmenées dans la forêt, dormir ou en balade. Ouais. Et du coup, apporter tout ce que les médiateurs à l'environnement, les médiateurs scientifiques apportent lorsqu'ils sont avec des groupes, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge.
Donc, il y a plein de bons gestes à connaître et puis des initiatives écologiques également à soutenir pour préserver nos forêts. On en parlera avec vous. Aude Valade, vous êtes chercheuse en écologie globale et vous avez imaginé avec toute une équipe de scientifiques ce jeu de plateau climatique. Et votre mission pendant justement cette Terre au Carré sera de convaincre Camille, qu'on peut vraiment s'amuser avec un jeu de plateau sur le climat. Ce serait quoi le premier argument justement pour tenter de la séduire? Parce qu'elle était très sceptique, Camille.
On va tous mourir, c'est le principe du jeu. Non,
justement, ce jeu, il a été pensé pour être non anxiogène et très ludique. Il y a des défis, il y a des mimes, des dessiner c'est gagner, des passer la parole. Non, c'est vraiment ludique. Si vous voulez, on fera une partie.
Allez. Bon, on va expliquer comment ça fonctionne voilà. En tout cas. Et puis enfin, Patrick Scheider, vous êtes pianiste et concepteur de spectacles sur la biodiversité. Ouais. Et vous signez dans le nouveau numéro de Oui Demain, une série sur les écolos de l'histoire. Et c'est avec Jean de La Fontaine que vous allez commencer, c'est ça?
Oui, voilà, parce que La Fontaine, on l'apprend beaucoup comme un fabuliste qui se sert des animaux comme des objets de métaphore, finalement. Mais non, il aimait les animaux. Il a voulu défendre aussi au travers des fables, ce qu'on appelle maintenant la cause animale. Donc, ouais. Il a été précurseur à ce niveau-là.
Et c'est ce que vous allez nous raconter. On fera un peu d'histoire de l'écologie grâce à vous. Allez, on se retrouve dans un instant. Messages et questions de vous, amis auditrices et auditeurs, sur la page de la Terre au Carré.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour sur un bout de terre. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour sur un bras de mer. Elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle prend de la hauteur. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. À croire qu'elles sont plusieurs. À nous grignoter le cœur.
La colère en ce genre de Black Friday, c'était Gaëtan Roussel sur France Inter.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Aujourd'hui, on part sur les traces des animaux sauvages de la forêt.
Alors des fois, pour connaître les animaux qui vivent sur un site, pas forcément besoin de les voir au départ. Il suffit de marcher, d'ouvrir grand les yeux, de regarder partout et de prendre n'importe quel indice. Les passages d'animaux, les crottes, les pelotes, les grattis, les frottis. Il y a plein d'indices qui peuvent nous dire, nous donner des réponses sur ce qui vit sur un site.
Voilà, c'est la voix de Nicolas Lambert sur la chaîne YouTube Instant Biodive. C'était en janvier 2019. Il était sur la piste des animaux forestiers. C'est une bonne introduction, François Lasserre, pour présenter votre ouvrage Ma Forêt, que vous publiez avec Arnaud Tétlin aux éditions Belin dans cette collection Mes Balades Écolo. C'est quoi l'idée, alors, finalement, même si on comprend à peu près dans le titre de quoi il s'agit?
Mais c'est le deuxième d'une longue série, je l'espère. Le premier, c'était Ma Campagne de Pierre Rigaud, toujours avec Arnaud Tétlin aux illustrations. Et c'était une proposition de balade un peu plus engagée que d'habitude. C'est pas, on se balade pas simplement, on essaye de voir des choses un peu différentes et on essaye de faire des choses différentes. Donc à la fin de chaque chapitre, on propose quelque chose qui est à notre portée pour aller un peu plus loin dans l'aide à la biodiversité, aux animaux non humains, et en particulier ici, aux forêts.
Ouais. Et des forêts, on en a beaucoup en France quand même, vous le rappelez dès l'entrée du livre. Hein.
Alors on en a un peu plus qu'au moment de la Révolution, où c'était tombé à 6 millions d'hectares, et puis on est aujourd'hui à 17 millions.
Ouais.
Et sur ces 17 millions, alors malheureusement entre guillemets, mais il n'y a que 25% de ces 17 millions qui sont publics. Et 10% domanial. Mais quand même, ça fait une étendue assez énorme pour pouvoir s'y amuser. Puis surtout, on peut avoir accès à des forêts privées de temps en temps, avec l'autorisation des propriétaires.
Vous dites que ce balai dans forêt est une garantie d'apaisement et que vous, personnellement, vous vous sentez rassuré et à l'abri au cœur d'une forêt, même avec les chasseurs?
Alors, quand il y a des chasseurs, ça c'est sûr qu'on fait beaucoup de bruit. On les entend de loin. Bien sûr que les chasseurs nous stressent un peu, et les chasseuses. Mais c'est vrai que souvent, je vais randonner très haut dans la montagne, au milieu des rochers, de la neige, etc. Et puis quand on descend vers la plaine et qu'on rentre dans la forêt, là, il y a une espèce de sensation d'apaisement. Alors les sons sont pas pareils. On est entouré de végétaux. Et puis surtout, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai aucune crainte en forêt. C'est vraiment un endroit où je peux dormir à même le sol. Je sais qu'il ne se passera rien. À part une ou deux tiques, je le vois dans votre regard, mais c'est tout.
Phobie des tiques, absolument.
Dans votre forêt, est-ce que, justement, ce qui vous apaise, par exemple, plus particulièrement, c'est plutôt la végétation ou plutôt les animaux non vivants, comme vous dites, qu'on va retrouver, vous qui êtes entomologiste?
Non humain,
j'ai dit quoi? Ouais,
c'est vrai qu'on plutôt que de dire les humains et les animaux et les autres animaux, on emploie souvent le terme non humain pour décrire les autres animaux ou les autres êtres vivants, tous les autres êtres vivants. C'est avant tout la végétation. C'est vrai que dans la forêt, on est entouré complètement. C'est un peu particulier parce qu'il y en a en haut, en bas, il y en a absolument partout. Les sons sont vraiment différents, souvent feutrés. Le sol est un peu mou parfois. Et les animaux, en tout cas, eux, sont vraiment tous cachés. Mais ce qu'on essaye d'apprendre et de montrer, c'est qu'en fait, ils sont tout autour de nous. Vous pouvez vous balader dans une forêt et passer à quelques mètres d'un chevreuil endormi ou d'un sanglier, vous ne l'avez absolument pas vu. En fait, les non-humains sont tous, les animaux, sont tous autour de nous, mais on les voit jamais parce qu'on est toujours dans les sentiers. Et les animaux non-humains, c'est comme les araignées dans les maisons. Ils sont aux seuls endroits où vous ne passez pas l'aspirateur. Alors, on passe pas l'aspirateur en forêt, mais on ne s'y balade pas. Ils nous calculent totalement, ils savent exactement quel sentier on va utiliser, parce qu'on utilise toujours les sentiers. Tout le monde en a un peu peur, on a un peu peur de sortir des sentiers.
Et vous conseillez pourtant de le faire, mais...
Et j'invite à le faire justement parce qu'on découvre la forêt de façon complètement différente.
Mais on va pas déranger, on va pas les déranger si on se met tous à sortir des sentiers.
Alors, on le fera pas tous du jour au lendemain, déjà. Quelques-uns le feront. Et ce que j'invite à le faire, c'est le faire tranquillement, plutôt seul, puisqu'il y a, je donne une technique à un moment de seed spotting, de se poser au pied d'un arbre toujours le même et d'y aller si possible tous les jours pendant 20 à 30 minutes. Et là, en fait, si vous sortez des sentiers battus et que vous appuyez contre un arbre toujours au même endroit, en fait, les autres animaux vont vous oublier et vous allez vous retrouver un peu comme Blanche-Neige dans Blanche-Neige.
Voilà.
Quand elle est entourée de, voilà. Quand elle se retrouve entourée, ça m'avait fait rêver cette scène quand j'étais petit. Vous voyez, elle se retrouve entourée d'oiseaux, de mammifères et tout qui vient.
Et de tiques.
C'est un peu ce qui se passe. Et très peu de tiques. Et on peut s'en prémunir d'ailleurs.
Alors, ce qui est bien, c'est que dans cet ouvrage, vous donnez tout un tas de conseils justement pour aller sur la trace de ces animaux qu'on ne voit pas et qui pourtant laissent énormément d'indices, en réalité, hein. Et on peut commencer par les crottes, par exemple. Ça, c'est un très bon indice, hein.
Alors, justement, au début, quand on ne sait pas trop, comme ils sont tous cachés au seul endroit où on ne va pas, en tout cas, ils ont laissé plein d'indices. Et les premiers sont les traces, les empreintes qu'ils ont marquées, qu'ils ont laissées sur les allées, souvent là où il y a de la boue, ou des crottes. Ça, on sait reconnaître une crotte. En revanche, à qui elle appartient? Mais en fait, les animaux sont, c'est comme les arbres en forêt, sont pas si nombreux que ça. Et ce que j'invite surtout à faire, c'est à reconnaître une crotte, par exemple, ou une empreinte, point, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, oh non, moi on me dit, oh mais je suis nul en nature, non mais laisse tomber, moi j'y connais rien en nature. Mais en fait, il suffit parfois juste de reconnaître un seul arbre, et ça suffit pour déjà avoir une autre vision. Et le jour où vraiment vous savez reconnaître un être,
Donc
vous pouvez
on devient spécialiste d'une crotte, et là déjà, c'est bien parti.
Mais déjà, de savoir qu'un renard est passé par là, de raconter autour de vous, aux enfants, à qui vous... Regarde, ça c'est un renard, regarde, il a mangé des baies, il y a des petits noyaux. rien que ça, c'est déjà une première approche, c'est déjà une première clé d'entrée absolument importante.
Qui a déjà dormi à même le sol dans la forêt? Qui a fait cette expérience? Vous, Patrick?
Non, j'ai essayé, mais j'arrivais pas à dormir. Oui. Il y a trop de son.
Mais vous êtes resté toute la nuit ou pas? Ou vous avez chu avant?
Non, ah, 2 heures et c'était bon.
Bon, alors vous, évidemment.
François Lasserre.
François Lasserre, bien sûr. Aude Valade, est-ce que vous avez déjà essayé?
Non, j'ai essayé cette semaine la promenade en forêt la nuit, ça m'a vacciné, c'est bon.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Pourquoi? Parce que une piste cyclable qui passait par la forêt. Ouais. Il fait nuit tôt en ce moment. Et donc voilà, je me suis retrouvée dans la forêt la nuit en vélo. Et
vous avez eu peur?
Non, pas peur, mais je savais plus trop où j'étais.
Ouais.
Donc non, y dormir, pas forcément.
Ouais. Alors moi, en lisant votre livre, j'ai eu envie, mais je me suis dit, mais pourquoi on n'a jamais fait ça? Enfin, pourquoi on est très nombreux à l'avoir jamais tenté, alors que c'est une expérience absolument géniale quand même de dormir dans la forêt. C'est tout simple en plus.
C'est incroyablement simple et c'est au-delà de magique. Et c'est étonnant parce que tous ceux qu'on emmène finalement, tous ceux qui me disent « Ah bah tiens, oui, t'y vas, bon allez, ok, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut simplement un sac de couchage adapté à la température qu'il fera ». Parce que c'est sans tente, évidemment, c'est en plus on laisse pas de traces, c'est sans tente, donc ça peut être soit même le sol sur un tapis de sol éventuellement pour s'isoler de l'humidité, ou un tout petit hamac en protégeant bien l'arbre des cordages. C'est d'une simplicité absolue, il suffit d'un sandwich, il suffit de le faire 24 heures. J'emmène quelqu'un de midi à midi, vous avez passé la nuit dehors, vous verrez plus jamais la forêt comme avant. Et c'est d'une simplicité absolue. Le seul truc, un sac de couchage pour pas avoir froid, c'est désagréable. Ouais. Et je vous entends dire, je dormais pas beaucoup. En fait, ce qu'on dit souvent la première nuit, c'est parfois on fait plusieurs nuits quand on emmène des gens bivouaquer, mais on dit la première nuit. Si vous dormez pas, ça n'a aucune importance. Profitez. Vous allez entendre des bruits que vous n'aurez jamais entendus. Vous allez voir les étoiles à travers le feuillage. Vous allez voir la lune. Vous allez entendre un gratouillis, un chevreuil aboyer, un renard hurler. Ça fait carrément peur. Et le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous retrouver avec une limace sur le front. Et encore, c'est jamais arrivé. Mais voilà le truc.
Alors justement, je voudrais savoir si on se retrouve nez à nez avec un sanglier, avec un renard, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Peut-être qu'il faut que je le formule comme ça plutôt.
Bah en fait j'en rêve, ça n'arrive jamais.
Ah bon?
Ça n'arrive
pas. Moi
quasiment
je me balade
jamais.
En forêt, j'ai toujours peur de me faire courser par un sanglier.
Et c'est déjà arrivé?
Non mais bon.
Voilà. En fait la probabilité de se faire chasser par un est tellement faible, c'est-à-dire qu'elle est bien plus faible que de se prendre une tuile sur la tête quand on se balade en ville, que on peut l'oublier. En revanche, ce qui est vrai, c'est quand on emmène des gens qui n'ont jamais fait ça, on est toujours au début obligé de dire voilà ce qui va se passer dans la forêt. Voilà comment se comportent les sangliers, voilà comment se comportent les renards. Parce que c'est vrai qu'on a eu parfois des questions, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu qu'il y avait des renards dans cette forêt, alors que les forêts, des renards, il y en a absolument partout, y compris en ville. Et on dit qu'est-ce qui va se passer la nuit? Et on voyait son regard inquiet. Et là, on se regarde, on dit c'est pas possible, elle nous pose des questions sur les renards. En fait, on sent trop l'humain, on est en plus des prédateurs, il y a aucune bête qui vit. Il n'y a aucun sanglier qui vient vous renifler les fesses la nuit. Ça n'existe pas, ils ont peur. Éventuellement, un chevreuil vient vous aboyer dessus. Mais les probabilités de se faire, c'est éventuellement un sanglier blessé à la chasse, par exemple, ou une laie quand elle est assez petite. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive quand on fait un petit bivouac avec des humains. Vous sentez trop mauvais.
Bon. Est-ce que François Lasserre, soyez poli avec Camille Prognier, s'il vous plaît, et pas désagréable. Est-ce que vous êtes du style à prendre les arbres dans vos bras, à leur parler? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites ou pas?
Alors, pas trop, mais s'asseoir au pied d'un arbre, ça suffit. Et ce qui est vrai que des études montrent que vous vous apaisez bien plus entouré de végétaux, vous vous réparez plus psychologiquement ou physiquement si vous avez une blessure, ça c'est sûr. Donc, être assis au pied d'un arbre, déjà, c'est absolument énorme. Alors, il y a beaucoup de mouvements, les bains de forêt, la sylvothérapie, etc. Tout ça est plus ou moins prouvé. Ce qui est vrai, c'est que la vue de végétaux, même quand vous êtes dans un hôpital, que vous voyez des végétaux à travers la fenêtre, vous guérissez un peu mieux. Donc quand vous êtes entouré de végétaux, et si en plus vous vous posez au pied d'un et que vous pensez plus à rien, vous avez éteint la sonnerie de votre portable, vous posez tous les livres, rien, et là, ça... Il y a des chances que ça vous apaise sérieusement.
En tout cas, vous insistez sur le fait de ne rien laisser quand on justement en bivouac, particulièrement la nuit. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre et quasiment la règle absolue du livre. C'est on est discret et on ne laisse pas un seul papier là où on se trouve.
Bah, c'est ça un peu du livre no trace. Voilà. Même les histoires de toilettes, on fait gaffe, on rapporte le papier, on enterre, etc. Et c'est vrai qu'on est sur du leave no trace. C'est un mouvement mondial d'ailleurs avec quelques règles à respecter.
Ne laisser aucune trace.
Aucune traces et parmi nos groupes, là, on emmène souvent des gens dans la forêt. On secoue même les feuilles, vous voyez, pour vraiment pas montrer qu'on est passé. Voilà,
Et est-ce qu'il y a une période plus propice, là? Il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui, ce week-end, vont se dire, on se fait une nuit en forêt. Est-ce qu'il vaut mieux l'hiver, le printemps, l'été, l'automne?
Alors, quand on commence, évidemment, le problème, c'est le froid ou la pluie. Bon, c'est mieux au printemps, en été, on n'est pas obligé d'avoir un duvet qui est OK pour moins 10 degrés, et on n'est pas obligé d'avoir un tarp, parce que nous, on se met un tarp quand il pleut, on y va même quand il pleut, on se met un petit abri, une petite bâche au-dessus de nous, au-dessus du hamac ou au-dessus du tapis de sol. Donc, évidemment, qu'il fasse chaud, c'est mieux. En revanche, chaque saison, chaque moment, chaque week-end est différent. Mmh. Et on adore le faire à l'automne et en hiver. Ouais, c'est génial. Complètement
en ce moment,
différent.
C'est et les odeurs.
Nous, on a les odeurs. Là, ouais. En ce moment, à l'automne, c'est absolument magnifique, c'est sublime. Il suffit juste que le sac de couchage soit adapté. Voilà. Vous pouvez y aller, même s'il fait 0 degré ou moins 5, il suffit d'un bon sac de couchage et c'est exactement la même chose.
Et pas de feu de camp.
Et pas de feu de camp, on a malheureusement pas le droit de faire du feu en forêt, c'est absolument interdit.
Allez, Ma Forêt, François Lasserre avec Arnaud Tetlin, c'est aux éditions Belin dans cette collection pleine de conseils qui s'appelle Mes balades écolo.
France Inter, la terre au carré.
Et c'est l'heure de Camille passe au vert à 14h26.
Et il ne vous aura pas échappé que dans un mois pile, nous serons tous affalés sur un canapé en train de digérer nos repas scandaleusement gargantuesques de Noël, avant de finir quand même les restes, évidemment. Repas de fête dans lesquels on retrouve souvent du homard. Eh bien, sachez que nos amis décapodes sont des êtres sensibles, comme leurs congénères crabes ou crevettes, mais aussi les poulpes et calmars dans la catégorie céphalopodes. Tous ressentent la douleur, d'après un rapport britannique qui se base sur plus de 300 études. Et comment le sait-on? Explication de la biologiste Laure Bonneau-Ponticelli, spécialiste des céphalopodes au Muséum National d'Histoire Naturelle.
C'est des méthodes électrophysiologiques, c'est-à-dire qu'on met comme des petites épingles, mais très 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 fines, hein, qui détectent les signaux électriques. Et à partir du moment où, par exemple, on pince le bras d'un poulpe, eh ben on voit que le signal électrique il augmente. Ça veut dire qu'il y a une réaction. Le homard, c'est un peu le même principe, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre ces petites électrodes. Alors tout de suite, ça fait horrible, mais c'est des petites choses qui sont très très fines, hein, qui permettent de voir le signal dans les nerfs, dans des ganglions ou à proximité d'un ganglion.
Eh oui, ils ont un système nerveux, donc la souffrance existe aussi. On l'appelle sentience. Donc le rapport recommande de ne pas leur arracher les pattes vivants ou de ne pas les ébouillanter, ce qui est au passage déjà interdit en Suisse ou en Nouvelle-Zélande, mais si le courbouillon vous tient à cœur, petit conseil de Laure Bonneau-Ponticelli.
Les mettre au frigo, hein. Les mettre au frigo, ça permet de les anesthésier. Faut pas les laisser non plus trop longtemps parce qu'après ils meurent forcément, hein, d'hypothermie. Mais une fois qu'ils sont anesthésiés par le froid à 4 degrés, on les met dans la casserole et dans ce cas-là, ils ne ressentent pas de souffrance. Ça a été montré depuis plusieurs années. Il y a l'alcool. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est que vous pouvez les mettre dans de l'eau avec 10% d'alcool, par exemple.
Alcool qui va les anesthésier aussi. Et ce ne sera pas une gueule de bois, juste une anesthésie. Pour les poules, avis aux pêcheurs, rien ne sert de les tambouriner pour les assouplir. Ils sont tendres par nature et cela dans tous les sens du terme. Alors là, on reste dans l'ambiance maritime. Ce qu'on entend, ce sont les piaulements et les claquements de bec des albatros pendant la parade amoureuse. Les albatros ultra fidèles, hein, ils passent leur vie jusqu'à 60 ans avec le même partenaire. Seulement 1 à 3% de séparation en général. Mais voilà, le réchauffement climatique augmente ce taux de divorce. Jusqu'à 8% d'après une étude parue mercredi. Alors il y a 3 pistes pour l'expliquer. 1. Quand l'eau est trop chaude, moins de poissons, donc moins de calories, ce qui pourrait réduire la fertilité du couple, seule cause valable de séparation jusque-là chez les albatros. 2. Moins de poissons, bah ça veut dire que du coup ça les oblige à partir plus loin, donc plus longtemps pour trouver de quoi manger. Et quand le chat n'est pas là, bah vous savez ce qui se passe. 3. Environnement hostile égale stress en hausse, et c'est le partenaire qui porterait le chapeau. Bravo. Magie de la radio, nous voici désormais en compagnie d'abeilles, des abeilles sauvages rares qui pourraient être les dernières descendantes de la population d'abeilles domestiques indigènes de Grande-Bretagne.
Et c'est lui, Philippe Salbani, qui a découvert des dizaines de colonies dans d'anciens bois près de Woodstock.
Je suis arrivé avec très peu d'attente. Je me suis sans doute basé sur ce que les gens disent habituellement, à savoir que les abeilles n'ont pas survécu au varroa, n'ont pas survécu aux maladies. Mais le fait est qu'elles ont survécu pendant une longue période de temps dans leur environnement d'origine. Il serait négligent de notre part de ne pas reconnaître l'existence de ces écotypes d'abeilles qui sont uniques aux écosystèmes. Ils sont absolument uniques et sont également uniques aux cultures.
À suivre donc, mais vous aurez bien compris qu'il n'est pas question de miel pour l'instant. Celles qui font leur miel aujourd'hui, en revanche, transition très subtile, vous allez voir, ce sont des milliers d'enseignes avec le désormais célèbre Black Friday, boudé par 6 Français sur 10 aujourd'hui, d'après l'Observatoire Société et Consommation. Vérification tout à l'heure à midi.
Vous faites le Black Friday ou pas?
Non.
Pourquoi?
Ça m'intéresse pas. Trop de consommation.
Moi, dès que je vois une réduction, ça me donne envie d'acheter, en fait.
J'ai acheté un climatiseur, j'ai gagné 220 euros. Ça a baissé de 26% quand même.
Ça pousse à la consommation quand on n'a pas besoin de quelque chose, quoi.
Je trouve que ça n'a aucun sens. Ça favorise pas du tout la décroissance de la consommation, la réparation. Ils incitent les gens à la consommation de façon scandaleuse. Ça m'emmerde.
Voilà, au moins c'est clair. Alors certaines marques se mettent aussi à boycotter, elles sont presque 1500 dans le collectif Make Friday Green Again, ça veut dire reverdissons les vendredis, collectif dont Nicolas Rohr, cofondateur de la marque Fago, est porte-parole.
Aujourd'hui, avec un Black Friday, on veut mettre les consommateurs dans un tunnel d'achat à un moment précis, sans raisonner par rapport à un besoin. Or, pour émettre moins de CO2 et se mettre vraiment dans la démarche des accords de Paris, on dit qu'il faut consommer moins mais mieux, donc consommer au bon moment. En fait, consommer quand on en a un besoin, pas quand on nous dicte qu'il y a un besoin.
Avec des prix stables toute l'année et pas de fausses promos. Enfin là, c'était pas du tout en promo.
10 200 000 deux fois, est-ce que ça vient vu, mec? Je vous ai déjà 10 200 000.
Ah, 10 200 000 euros, 11 millions 6 frais compris, somme record pour celui qu'on surnomme le manuscrit suprême, un manuscrit de travail d'Albert Einstein, 54 pages écrites entre 1913 et 1914, pleines d'équations et de ratures dans lesquelles le physicien préparait sa théorie de la relativité générale. Si quelqu'un connaît l'acheteur, qu'il nous le dise, ça peut intéresser Mathieu Vidard.
Bien sûr. Et Patrick Scheider aussi, visiblement. Ah, ça oui, vous inspire quoi, vous, le prix de ce manuscrit? Il faudra en faire des concerts.
C'est terrifiant. Mais moi, je suis plutôt branché Léonard de Vinci, donc je me dis, tiens, si on vend la Joconde, combien?
Un pays,
peut-être.
Incroyable. Allez, dans un instant, on va vous offrir un jeu beaucoup plus abordable, ça s'appelle Climat Tic Tac.
I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy.
toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Lemon Tree, c'était Fool's Garden. Énorme discussion pendant le disque sur la question de dormir dehors dans la forêt et la peur des sangliers, par exemple. Il y a Laurence qui nous envoie ce mail, François Lasserre, et nous dit « Ma fille de 6 ans me réclame de dormir dans la forêt à chaque fois qu'on y va faire un pique-nique, mais ne l'ayant jamais fait moi-même, j'ai pas encore osé l'y emmener. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour une nuit en forêt avec des enfants ?»
Alors, on, bien sûr, alors je les ai mis dans le livre, et sinon, il y a tout autour de vous en France, des éducateurs, des éducatrices à la nature qui vont vous apporter ces conseils. Donc, vous pouvez commencer par le Réseau National d'Éducation à l'Environnement, par exemple, le FREN, qui a lancé une dynamique sortir, donc pour aller dehors. Et puis, en Ile-de-France, il y a la pause dehors du GREN Ile-de-France, qui est un groupe de travail qui réfléchit sur ce sujet et qui emmène des gens et qui peut vous donner tous les conseils.
Donc, on peut se faire accompagner, c'est peut-être le premier conseil.
Alors, on peut se faire accompagner si on sait pas trop y aller seul. Et puis, sinon, vous frappez à la porte de n'importe quel réseau d'éducation à l'environnement, il vous répondra.
Et sinon, vous lisez Ma forêt chez Belin.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour à tous les enfants. Noël, c'est bientôt. Ici, en Laponie, les lutins et moi aussi, nous avons encore une multitude de choses à faire. J'imagine que toi aussi, tu es déjà en train de penser à Noël. Ici, au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour trier et lire la montagne de lettres que les enfants du monde entier nous envoient.
Voilà, Haute-Valade, j'ai trouvé que ça, pardon, pour introduire votre sujet. Et pour offrir cette boîte de jeux et la mettre au pied du sapin de Noël. Car je suis sûr que les enfants, après cette émission, vont écrire nombreux au Père Noël pour recevoir Climat Tic Tac. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous qui avez travaillé donc sur cette boîte de jeux avec un collectif, racontez-nous, parce que ce jeu a été même récompensé d'une médaille de la médiation scientifique du CNRS en septembre. Vous êtes chercheuse en écologie globale. Alors, c'est quoi ce jeu exactement?
Alors déjà, il est pour les enfants, mais aussi pour les parents.
Oui,
en fait.
Oui.
Il est bien pour toute la famille, tout le public à la fois à l'école et dans la famille. Donc c'est un jeu qui a été développé dans des laboratoires de sciences climatiques, donc avec des chercheurs du CEA et du CNRS qui travaillent à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et donc l'objectif, c'était de créer un outil pédagogique pour pouvoir parler au grand public et aux scolaires de changement climatique. Aussi parce que, on en parlait en introduction, mais la peur du changement climatique, elle vient aussi de l'incompréhension des mécanismes. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment basé sur la connaissance scientifique, sur les mécanismes réels entre l'atmosphère et la surface terrestre. Et ça me permet de mieux comprendre quels sont les enjeux du changement climatique et ses mécanismes. Et de comprendre que l'enjeu principal du changement climatique, c'est l'habitabilité de la planète Terre. Et donc là, finalement, en manipulant les différents éléments du jeu et les différents concepts, on se familiarise et ça permet de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes.
Donc 150 défis pour chauffer l'ambiance et pas la planète. Et on peut planter des arbres parce qu'il y a des graines offertes d'ailleurs dans la boîte. Et alors Camille, il a ouvert justement sa boîte, le plateau, elle l'a installé.
Alors, je décris, il y a donc un grand plateau planisphère donc un planisphère avec des capitales, il y a des petits objets, alors comment on appelle ça,
des jetons.
Des jetons, voilà, des petits jetons avec il y a des nuages de CO2, il y a des mains qui se serrent. Et ça, c'est quoi là, le violet là? Vous pouvez nous décrire en fait à quoi ça correspond tout ça et à quoi ça sert surtout?
Alors, donc en fait, on va jouer sur deux concepts à la fois. À la fois sur la limitation du changement climatique, donc via le CO2. Donc ça, c'est les petits jetons CO2. Et après, on joue aussi sur l'habitabilité dans les villes, donc les aléas climatiques qui vont rendre la vie dans les villes plus compliquée. Et donc les joueurs, c'est un jeu collaboratif. Tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu, contre les cartes du jeu, pour arriver à maintenir la planète habitable. Donc à la fois, il va falloir qu'ils diminuent les émissions qui vont arriver dans la décennie, et en même temps, il faut qu'ils règlent les problèmes qui arrivent aux villes au fur et à mesure.
D'accord. Et on s'amuse vraiment ou pas? Parce que tout ça est très sérieux quand même. Donc on se dit, mais oh là là, ça avec toute la famille, est-ce que vraiment on va se marrer?
C'est la force de ce jeu, je trouve, parce qu'on a réussi, je trouve, et ça a été aussi repris par une... Donc à la base, il y avait une version pédagogique qui était distribuée dans les lycées, dans le réseau Canopé de l'éducation nationale et puis dans les écoles de la ville de Paris. Et ça, c'est la version commerciale qui a été adaptée légèrement par la société Bioviva. Et vraiment, je pense que si la société aussi s'est appropriée, enfin l'a pris en main, c'est parce qu'il y avait un potentiel quand même très ludique. Donc il y a les défis, mais il y a aussi donc ça s'appelle Climatic Tag aussi, parce qu'il y a ce côté suspense. Et donc il y a l'effet changement climatique qui fait qu'il y a des seuils à partir desquels ça devient plus difficile aussi de jouer. Et donc il y a vraiment, si on rentre dans le jeu, tous les tests qu'on a fait, on a vu...
Testé beaucoup, hein, c'est ça, dans les salons de jeu, par exemple. Alors sincèrement, quel retour vous avez eu? Et par exemple, sur les critiques qu'on a pu vous formuler, qu'est-ce qui est ressorti finalement de ces tests?
Alors en fait, souvent, donc on a fait plusieurs niveaux de tests. D'abord, on avait, nous, des bêta-tests dans les laboratoires avec nos collègues ou à la maison avec nos amis.
Bon, là, il y a des petits biais de départ quand même, parce qu'a priori, c'est plutôt des gens qui sont intéressés par le sujet. Mais...
Oui, mais c'est pas le public le plus facile, parce qu'ils trouvent toujours qu'il y a un mécanisme qui manque. Mais donc quand même, ils reconnaissaient vraiment l'intérêt. Et après, donc dans les salons de jeu, au Forum international de la météo, à la fête de la science. Et en fait, souvent, les critiques qu'on avait, c'était qu'il fallait en mettre plus, en fait. Il fallait mettre plus de mécanismes. Il fallait mettre, ah oui, et ça, est-ce que ça y est? Et donc, on essayait
d'enrichir, en fait,
exhaustif.
Le jeu.
Ouais. D'enrichir, il y a eu un gros travail de bibliographie. Et dans ce sens, le jeu, c'est aussi un hommage à tous les chercheurs qui, depuis les années 80, travaillent sur le changement climatique et qui permettent qu'aujourd'hui, on ait toutes ces connaissances, même si on n'en a pas encore fait l'usage qu'on pourra en attendre. Mais il y a vraiment un gros travail de recherche.
François Lasserre, ça vous inspire quoi, ce jeu? Est-ce que vous aimeriez l'offrir à vos enfants, par exemple?
En fait, alors moi, j'aimerais le même sur les insectes, évidemment, sur la protection des insectes, mais pourquoi pas? Alors, ils sont un peu vieux maintenant. Pas forcément d'ailleurs, c'est jusqu'à quel âge?
Mais non, c'est pour toute la famille.
Ah, c'est pour toute la famille.
Non, il n'y a pas d'âge.
Non, mais c'est surtout que je vois le logo Bioviva et sans faire de pub à une petite entreprise, une grande entreprise peut-être. Ça fait très longtemps qu'ils font des jeux de société, ils sont absolument partout, ils ont tous les formats, ils savent exactement ce qu'est un jeu, ce qu'est le ludique, et donc a priori, ils vous ont guidé, aidé, et c'est comme tous les jeux Bioviva, c'est
des pros du jeu. En fait, à la base, c'est vraiment nous qui avons développé le jeu. Alors, on a eu des retours, des échanges avec certains professionnels, mais c'est le mécanisme du jeu, c'est vraiment nous qui l'avons développé.
Donc, ça voulait dire qu'il était ludique dès le départ, quoi.
Il était déjà, on l'a développé avec cet objectif en tête de garder. Donc, on savait que la première sortie, c'était vers les scolaires. Mais on a toujours gardé en tête pendant le développement, même si c'était pédagogique et scolaire, de garder un côté famille et un côté ludique.
Vous avez vu comme Camille commence à s'y intéresser?
Ouais, mais alors, je vais encore faire la petite bête, mais c'est quand même pas très joyeux pour passer une super soirée, à Noël. Alors, première carte au pif, vous lancez un appel aux dons alimentaires pour contrer la terrible famine causée par une sécheresse prolongée. Deuxième carte au pif, on est à Rotterdam. Une forte tempête risque de provoquer des inondations. La fermeture du barrage anti-tempête empêche le trafic maritime. Troisième carte, là on est à Manaus, donc au Brésil. Les crues plus fréquentes du Rio Negro créent des dégâts et les canicules à répétition sont un grand danger pour une ville surpeuplée. Est-ce qu'on passe vraiment une bonne soirée? Je vous pose la question.
Mais en fait, vous pouvez le voir autrement. Vous pouvez vous dire, soit on fait un repas de famille... Et on a du mal à communiquer, parce que les générations sont pas toujours sur même niveau. Soit on en parle autour d'un jeu, ça lève des questions aussi. Et en fait, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui, vous voyez ça dans les journaux, vous voyez ça aux infos. Et là, finalement, ça permet de voir, vous avez les aléas et vous avez les solutions. Et à la fois, vous pouvez le voir juste comme la part jeu. Mais n'empêche que ça permet de renouer la discussion aussi entre les générations. C'est aussi un des enjeux. Valérie Masson-Delmotte, une collègue climatologue, me disait que dans un lycée, elle a des lycéennes qui lui disaient qu'elles n'arrivent plus à parler avec leurs grands-parents de ces sujets-là. Et un outil comme ça, ça permet aussi de remettre un peu d'objectivité et de renouer du dialogue sur des questions. C'est vrai que le changement climatique, il est anxiogène, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'outils comme ça pour en parler et comprendre quelle est la solution à ce type de problème.
En tout cas, les profs, les instituts sont hyper contents parce que vous avez des très très bons retours, et c'est vrai qu'on se fait l'avocat du diable, mais il y a un très bon boulot qui est fait derrière et qu'on avait envie d'encourager évidemment en vous invitant dans l'émission, parce que le jeu en plus a été fabriqué en France, il a été éco-conçu. Vous avez fait attention à tout ça aussi dans la fabrication, ça a été important, je crois, pour vous.
Oui, oui, bien sûr. On a essayé de choisir des matériaux responsables, de le faire fabriquer en France. Ça va avec. On peut pas. Quand on travaille sur ces sujets déjà à la base, on peut pas ne pas changer notre mode de vie. Donc en plus, quand on fabrique ce type d'objet, il faut faire aller dans le bon sens en tout cas.
Donc à partir de 10 ans, jeu de plateau, et ben c'est intéressant en tout cas de pouvoir s'intéresser au réchauffement climatique. La boîte est vendue combien pour le Père Noël qui n'aurait plus de moyens ?
Une trentaine d'euros à peu près.
Trentaine d'euros, voilà. Et donc un jeu vertueux qui vient de sortir et qui a déjà eu un prix important puisqu'il a reçu celui de la médiation scientifique du CNRS.
Et juste si je peux rajouter une chose, ça pourrait aussi être intéressant pour les candidats à la présidentielle de jouer au jeu pour mieux comprendre les enjeux.
Il faut l'organiser alors.
Oui, mais pourquoi pas.
Très bonne idée. Allez, dans un instant, nous allons parler de Jean de La Fontaine, l'un des premiers écolos de l'histoire française. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? Pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way. But someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder, smile with the bricks and shine. But you weren't that kind when you were mine. JD and Cola. You weren't that guy when you were mine. When you were mine. By the Red Sea, made to measure. I'm shook, but you look put together. I had my hesitation, but I just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Beaucoup Joy Crooks avec When You Were Mine à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On peut estimer qu'une part de ce regard qu'il a porté sur la nature, sur les animaux et que l'on retrouve dans les fables, a pu être confortée par l'imprégnation de la nature, alors que, on le sait bien à cette époque-là, un peintre ou un poète, la nature, il la prend dans les livres.
C'est la voix du professeur de littérature Patrick Dandray, nous parlant de Jean de La Fontaine, extrait de cette histoire buissonnière de La Fontaine qui était racontée et diffusée sur France Inter en juillet 2017. Patrick Scheider, vous êtes pianiste, concepteur de spectacles musicaux sur le thème de la biodiversité, et vous avez publié hier, dans Oui Demain, le premier portrait justement de ces tout premiers écolos, et vous avez démarré avec Jean de La Fontaine. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que je disais tout à l'heure, un des premiers écolos français, c'est peut-être pas tout à fait juste d'ailleurs.
Non, mais La Fontaine...
Il y en a eu d'autres avant lui.
Oui, bien sûr. Mais bon, La Fontaine, je dirais, c'est un gars sympa, quoi. Et puis, j'ai voulu prendre à rebours l'affirmation comme quoi les Français sont cartésiens, voilà, qu'on entre ça dans la tête quand on est à l'école et au-delà. Et en fait, je dirais que les Français sont autant lafontainiens, parce qu'ils aiment La Fontaine, ils le connaissent, alors que Descartes, c'est plutôt une affaire de spécialiste, je dirais.
Mais il a bataillé contre Descartes, d'ailleurs, La Fontaine.
Ouais, voilà, parce que la théorie de Descartes, qui précédait les fables une trentaine d'années, c'était que les animaux sont des machines, en fait. Descartes avait une vision mécaniste et analytique des choses, et pour lui, la compréhension de la nature, du monde, c'est une mécanique voilà, sur laquelle l'homme doit avoir le pouvoir, en quelque sorte. Donc il dénie aux animaux de la sensibilité, une conscience, un esprit, en partant du fait que seul l'homme a une âme. Voilà, pour lui, c'est... Alors finalement, c'est curieux, parce qu'il nous invite au doute méthodique, à douter de ce qu'on voit, etc. Mais là, il en mange quelque chose qui est un présupposé. Il ne se pose pas la question du doute sur lui-même, sur ses propres croyances, finalement.
Et La Fontaine l'a vraiment critiqué là-dessus ?
C'est très intéressant, parce qu'en fait, moi, j'habite tout près de là où est né Descartes. Alors, actuellement, c'est vraiment la campagne profonde. Je pense qu'à l'époque, c'était encore plus la campagne. Donc,
c'est où ?
À Descartes. Voilà, ça s'appelle La Haye, ça s'appelait, et maintenant ça s'appelle La Haye Descartes. Donc c'est en Touraine profonde. Il était entouré d'animaux, mais il a décidé de ne pas les voir. En fait, c'est un déni philosophique. Bien sûr, c'est un génie. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et le doute méthodique nous est très utile en science pour aller au-delà de ce qu'on voit. Mais justement, c'est aussi une perversion, parce qu'il est au-delà de ce qu'il voyait. Tout le monde disait, les animaux, ils ont un instinct, ils savent plus de choses parfois que les hommes, ils voient mieux, etc. Il lui dit, non, il ne faut pas croire ce qu'on voit. Ben, là, il se trompe, quoi. Alors, La Fontaine, il en a assez d'entendre ça, je crois. Voilà, il trouve que c'est une voie sans issue, finalement.
Et alors, pardon, mais Jean de La Fontaine, vous dites donc que c'est un des premiers écolos, selon vous. En quoi il est écolo? Il utilise les animaux, évidemment, dans ses fables, mais pour parler de la morale, en quoi ça fait de lui un écolo?
Voilà, mais c'est pas seulement de la morale, en fait. Déjà, le simple fait de choisir des animaux pour les faire parler, pour donner le sang aux hommes, c'est renverser, finalement, la situation. C'est de dire, mais attention, les animaux, non seulement ils ont une sensibilité, mais aussi une intelligence. S'ils sont capables de donner le sang aux hommes, au-delà de la métaphore, c'est donc qu'ils ont une valeur intrinsèque. Et là, il s'en prend à détruire méthodiquement la théorie de Descartes dans le livre 10 des fables, dans une longue introduction qui fait 10 pages, donc sur la condition animale. C'est ma connaissance, un des premiers textes sur la condition animale, où il dit la théorie de Descartes est fausse, elle se dit nouvelle, mais en fait elle nie le vivant. Ne pas oublier que le papa de La Fontaine était maître des eaux et forêts à Château-Thierry.
Oui, donc c'est un homme de la campagne, quand même.
Voilà, c'est ça. Là aussi profonde, d'ailleurs. Et lui-même a repris la charge. Alors c'est vrai que La Fontaine aimait briller dans les salons, etc. Il aimait être connu. Mais il sait ce dont il parle en matière et de forêt et d'animaux. Ça change tout, finalement. Ouais. Et il prend la défense donc des animaux dans le livre 10 en disant qu'ils ont un savoir-faire, une ingénierie, des facultés certes différentes de l'humain, mais de vraies facultés. Alors que Descartes, quand il voyait, j'aurais pas voulu me promener en campagne avec Descartes, hein. Quand il voyait une hirondelle revenir tous les ans, presque au même moment pour faire son nid, il disait, vous voyez, c'est la preuve, c'est une horloge, elle a aucune sensibilité, aucun sens, finalement, elle agit automatiquement.
Oui, la souffrance de homard dont parlait Camille tout à l'heure, j'imagine que ça devait lui passer
très
loin. Ah
j'ai compris que Camille disait ça. Il y avait un message caché, mais oui. Mais moi, ma première sensibilité à cause animale, c'était justement par rapport aux coquilles Saint-Jacques. Voilà. Quand j'ai vu ma grand-mère mettre la coquille Saint-Jacques vivante dans la poêle et qu'on m'a dit, elle va s'ouvrir. Mais j'ai pleuré, mais j'avais 16 ans. Ouais, c'était horrible. Ouais, j'ai pris conscience de
quelque chose.
Donc
vous en mangez plus jamais?
Oui, des coquilles Saint-Jacques, c'est vrai.
Ah, c'est vrai? Vous avez arrêté de manger depuis toujours là.
Non, ça m'a vraiment offusqué. Mais bon, pour en venir à La Fontaine, je pense qu'il trouvait que Descartes avait rien compris à la vie, ce qui était relativement vrai dans un certain sens, parce que Descartes vivait très solitaire, retiré, il se protégeait sans cesse. Le vivant ne l'intéressait pas, c'était ses théories, son analyse qui l'intéressait. Et La Fontaine va donc plaider pour une cause animale en disant qu'ils existent, qu'ils ont une sensibilité, qu'ils peuvent souffrir, qu'ils peuvent aimer. Voilà. Ouais. Et ce sont les débuts de ce qu'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal. Donc les théories de Descartes commencent à faire vieux jeu, etc. Et La Fontaine est mille fois plus célèbre auprès des Français que Descartes. Alors pourquoi on dit qu'on est cartésien?
Et ben justement, François Lasserre, c'est intéressant de connaître aussi les racines de La Fontaine, cette histoire qu'on connaît pas très très bien au fond, et qui nous en dit beaucoup au fond sur ces fables.
Bon, ça me réconcilie un peu avec La Fontaine, parce que je croyais qu'il racontait sympa. N'importe quoi sur les fourmis et les cigales. Bon, bien sûr, il parle de nous, mais la cigale et la fourmi, elles ont deux modes de vie tout à fait adaptés pour l'hiver. Il y en a une qui est sociale et l'autre qui est solitaire.
Et ça vous agace, coup, ça, vraiment?
Bon, non, mais bon, c'est vrai que...
Non, mais ça vous agace qu'on l'apprenne dans les écoles, par exemple, ou pas?
Non, bien sûr que non, mais ça n'a rien à voir avec la biologie des cigales.
Eu égard
cigales,
à la vérité scientifique.
Voilà, exactement, mais bon, et bien sûr, bien il parle sûr. De nous. Ok, mais c'est vrai que ça m'aide à le voir différemment.
Là, il prend notamment la défense des castors, dont il dit les castors du Nord, donc je pense qu'il parle du Canada, finalement. Voilà, sont capables de construire des ponts, des barrages, chose que les humains de là-bas n'ont pas encore fait. Donc, ne sont-ce pas là des ingénieurs, un maître d'œuvre, un concepteur, tout à la fois.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la forêt? Parce qu'on en parlait avec François Lasserre, mais il y a tout un combat que mène La Fontaine sur le fait de couper les arbres, et ça, c'est encore une histoire qu'on ne connaît pas, et que vous racontez dans Oui Demain.
Alors, c'est très important, ça, parce que il va faire parler les arbres aussi, après avoir fait parler les animaux. Et notamment, il écrit je crois que c'est le livre 12, La forêt et le bûcheron, qui est une défense, finalement, de la cause forestière contre la déforestation.
Il critique la politique de déforestation de Louis XIV pour les jardins de Versailles.
Oui, parce qu'on nous apprend à l'école que, quand Louis XIV est arrivé, Versailles s'était démarré, il y a eu beaucoup de travaux, pour drainer, et puis pour faire vivre ce parc. Oui, mais où étaient les arbres? Il n'y en avait pas, donc il a bien voulu aller chercher. Donc Colbert suivait servilement Louis XIV et faisait des édits en disant qu'il faut aller chercher, notamment dans le forêt de Lyon, son Normandie, mais dans bien d'autres, comme dit le nôtre à 20 lieues à la ronde, des arbres pour peupler le parc de Versailles. Et là, on fait une chose qu'on n'avait jamais faite avant, on déplante des arbres qui ont 20 ou 30 ans d'âge, on les transporte, comme on dit, en motte, avec des petits chariots faits exprès, on les amène à Versailles. Et manque de chance, ces arbres sont trop vieux pour vraiment subsister, la plupart meurent. Et ça, ce sont des choses qui hérissent les amoureux de la nature. Et je crois que La Fontaine, vraiment, en écrivant cette fable, La forêt et le bûcheron, est très habile, parce qu'il montre aussi la perversité, quelque part, de l'espèce humaine. Voilà, ça va au-delà de Louis XIV. Parce que le bûcheron fait un peu comme beaucoup de gens actuellement, disant, la forêt, j'y fais attention, j'y toucherai pas, je prends juste ce dont j'ai besoin. Il avait cassé le manche de sa hache. Ouais. Il demande à la forêt de lui prêter une branche.
La
branche lui dit, ok, mais va pas plus loin.
Ouais, voilà. Bon, c'est ça.
La Fontaine le dit mieux que moi.
Ouais, ouais,
et finalement, une fois qu'il a remanché, effectivement, ça cognait, le vla qui détruit tout. Donc c'est ça, la déforestation. Voilà. Et donc La Fontaine fait une morale en deux temps qui est super intéressante. Une qui est vraiment de l'ordre de la métaphore, en disant que, et effectivement, c'est une métaphore sur l'ingratitude, que celui souvent qui nous a aidés, eh bien, on fait que le dépouiller ensuite. Mais il dit aussi, après, parce que c'est un vrai amoureux de la nature, qu'il s'élève contre le fait qu'on abat des ombrages. Voilà, donc c'est vraiment une critique directe et non pas seulement métaphorique de la déforestation.
François Lasserre, je vois que vous voulez intervenir.
Ben oui, parce qu'en intro, j'ai rappelé que le premier espace naturel protégé au monde, avant les États-Unis et Yellowstone, c'est une partie de la forêt de Fontainebleau.
Tout à fait.
En 1853, exactement, sanctuaire de nature, parce que c'était esthétiquement joli et qu'on allait les couper. Et là, les peintres et d'autres habitants se sont liés et le premier espace naturel au monde protégé est né en France.
Aude Valade, vous qui êtes chercheuse en écologie globale, d'ailleurs ça veut dire quoi ce terme exactement?
C'est de l'écologie planétaire, parce qu'on s'intéresse un peu au fonctionnement des écosystèmes à la fois tropicaux, tempérés, naturels.
Est-ce que c'est intéressant pour vous de faire de l'histoire de l'écologie, justement, parce que c'est ce que défend beaucoup Patrick Scheider, pour sensibiliser le public, justement, à ces préoccupations environnementales?
C'est intéressant pour le public et c'est intéressant pour les chercheurs aussi, de voir comment ont évolué les écosystèmes à la fois naturels et aussi la gestion qu'on en a fait. Mmh. Et on a fait des études pour voir l'impact de la gestion historique sur, sur des forêts européennes, par exemple, sur le climat. Et tout ça apporte beaucoup d'informations pour la gestion actuelle et pour la réponse au changement climatique.
Il y a qui, Patrick Scheider, comme autre écolo, premiers écolos alors dans...
Donc voilà, quelqu'un que tu viens d'évoquer un peu. Il y a les peintres de Barbizon et Georges Sand. Voilà, pour moi, c'est la première écoféministe. Parce que c'est Sand qui a lancé la mode de la forêt de Fontainebleau dans les années 1830. Et après, c'est elle qui a pris la défense de la forêt. Et en 1872, elle écrit une tribune incroyable dans le journal Le Temps, qui est un peu le monde de l'époque, de 12 pages, où elle prend la défense de la forêt. Elle dit que non seulement il faut défendre Fontainebleau parce que c'est beau, mais aussi parce que c'est est utile et nécessaire à la vie. Tiens, elle va plus loin que la seule beauté. Elle parle déjà de déforestation, ce qu'on appelle maintenant Amazonie, qu'elle appelle la forêt vierge. Et elle dit que le climat va s'assécher, qu'on va épuiser les ressources si on ne sait pas se mettre une certaine limite.
Et vous avez ce spectacle Des jardins et des hommes avec Camille Etienne.
Tout à fait. Je sais,
elle nous en a même pas parlé quand elle est venue à ce micro il y a 15 jours.
J'ai fait découvrir à Camille ce texte de Georges Sand. Mais incroyable, c'est exactement ce que je dis.
Et ce sera le 8 décembre à Dunkerque, le 18 à Cheverny. Donc, Georges Sand et sa place pour l'écologie. Et aujourd'hui même, vous serez à Lunéville à 19h30. Faut vite prendre le TGV. À la médiathèque pour une conférence sur l'écologie culturelle. Et puis, je signale également cet ouvrage que vous avez publié l'année dernière pour une pensée écologique positive. C'est paru aux éditions Belin. Voilà. On met toutes les références des livres sur le site de la Terre au Carré. Et on peut lire également Oui Demain, donc, qui est paru hier, une revue pour changer d'époque avec le premier volet, justement, consacré à ces artistes et philosophes écolos. Merci beaucoup à tous les trois.